Europe 1, il est 6h.
J'ai fait le mauvais calcul, me dire bah, je fais autant de salaire avec mes heures supplémentaires, je pouvais m'en sortir comme ça. Et il y a eu ce confinement, commence à toucher moins, et puis bah, vous enfoncez encore plus, quoi.
La spirale du surendettement, la crise économique frappe fort. Les plus modestes, inquiétudes des associations. Le Parlement vote sur le traçage numérique. Stop Covid. Après des semaines de débats, de controverses, droite-gauche voteront contre. Certains députés en marche aussi. D'autres ont été convaincus.
Quand on est entré dans ce débat, franchement, j'avais des craintes et j'avais besoin d'être rassuré. Maintenant, je le suis.
Dans ce journal, les détentions provisoires automatiques imposées par la garde des Sceaux pendant le confinement, retoquées par la Cour de cassation, une victoire pour les avocats. Nos révélations sur le protocole sanitaire dans les restaurants pour une prochaine réouverture. Et puis, la ville soleil du printemps, oubliez Nice, Marseille, c'est le Touquet.
Ça fait 18 ans que je suis ici et je crois que de mémoire, j'avais jamais vu ça.
706 heures de soleil, la ville du Pas-de-Calais officiellement plus ensoleillée de France ces trois derniers mois. Votre invité à 6h40, Mathieu.
Guillaume Vassaulière, PDG de Yes We Hack, expert en cybersécurité en direct à 6h40 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 6h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Jérôme Lacroix.
La crise sanitaire, un coup de semonce pour notre économie. Un pays quasi à l'arrêt pendant 2 mois et des conséquences sur l'emploi. Les plus fragiles subissent cette crise de plein fouet.
Les factures de plus en plus compliquées à payer. S'ajoutent aussi parfois les frais de repas pour les enfants qui ne bénéficient plus de la cantine. Les associations s'inquiètent d'un risque majeur pour ces familles, celui du surendettement. Jeanne Bergaoui.
On se retrouve vite dans le fond. Et puis bon, on se dit, on va prendre un autre crédit pour pouvoir s'en sortir.
Et encore un autre pour payer celui d'avant. Aujourd'hui, Franck a 25 000 euros de dette, de crédit, en loyer et des charges fixes. Jusqu'ici, cet agent de propreté disposait d'une petite marge de manœuvre en travaillant bien plus que 35 heures. Et puis mi-mars, il y a eu le chômage partiel.
J'ai fait le mauvais calcul de dire, bah, je fais autant de salaire avec mes heures supplémentaires. Je pouvais m'en sortir comme ça. Et il y a eu ce confinement, commence à toucher moins. Et puis bah, vous enfoncez encore plus, quoi.
Comme ce père de famille divorcé, de plus en plus de personnes angoissées appellent les permanences de Crésus, un réseau d'associations qui accompagne les personnes en difficulté financière. Souvent des salariés fragilisés par la crise économique, explique Pauline Dujardin, juriste de la Fédération.
Des personnes qui sont sur le fil, qui arrivaient à tenir avec un job supplémentaire, un petit boulot d'auto-entrepreneur, et qui là ont été privés de ces ressources, ce qui les a fait chuter.
Entre l'arrêt des dispositifs d'aide exceptionnelle et la vague de licenciements redoutée, ce réseau d'associations craint, dès septembre, une hausse considérable de ménages en grande difficulté financière.
Le point sur la situation sanitaire en France, la baisse du nombre de malades continue en réanimation. 28 530 morts au total, dont la moitié sont des personnes âgées résidentes en EHPAD, a dévoilé hier Santé publique France.
L'application du gouvernement Stop Covid, débattue aujourd'hui au Parlement, cet après-midi à l'Assemblée, ce soir au Sénat. L'application pour smartphone doit permettre aux utilisateurs d'être alertés s'ils ont croisé une personne contaminée par le Covid-19.
Chacun sera libre de télécharger ou non ce programme de traçage qui pose la question de la transmission de nos données personnelles. Dispositif ainsi qui fait débat parmi les parlementaires de tous bords, Claudia Bertram.
Pour LR, ce sera un vote massivement contre. Le président du groupe, Damien Abad, doute de l'efficacité et de l'utilité de l'application.
On s'interroge quand même de lancer une application 15 jours après le déconfinement. On n'arrivera jamais à 60% de la population française qui télécharge le dispositif parce qu'il arrive trop tardivement.
La gauche s'y opposera aussi et au sein de la majorité, le sujet divise depuis le début. Le député Sacha Houlier reste fermement contre et ne manquera pas de le dire à la tribune.
Les atteintes aux libertés publiques sont disproportionnées par rapport au but poursuivi. Je pense qu'il y a un effet cliqué qui fait qu'on ne reviendra jamais sur cette application. Elle sera déployée dans d'autres domaines.
Le secrétaire d'État au numérique a insisté sur le caractère volontaire, anonyme et temporaire de l'application pour tenter de rassurer les parlementaires sceptiques et le conseiller pour le marcheur Roland Lescure.
Il a à la fois expliqué l'évolution du travail, il a rassuré sur les inquiétudes qu'on avait. Quand on est entré dans ce débat, franchement, j'avais des craintes. Et j'avais besoin d'être rassuré. Maintenant, je le suis.
Le vote ne sera pas contraignant, même s'il aura une forte portée symbolique. On ne sait pas si on aura une deuxième vague, dit une ministre, mais on nous a reproché de ne pas anticiper. Là, on anticipe.
Et pour toutes les questions que vous posez, mais que vous souhaiteriez poser à l'antenne sur Stop Covid, 3921 ce matin, et le hashtag Europe 1, Cédric O, secrétaire d'État au numérique, invité de la matinale, vos questions de 8h30 à 8h45, juste avant, dès 8h15, il répondra aux questions de Sonia Mabrouk.
Comment mangerons-nous au restaurant ces prochaines semaines? Ceux des zones vertes pourraient rouvrir à partir de mardi prochain. Europe 1 vous révèle dès 5h le protocole sanitaire négocié avec le gouvernement. Menu présenté à l'oral ou sur votre portable via un QR code. Sens de circulation, marquage au sol, contrôles dans les files d'attente et des tables distantes d'au moins 1 mètre avec 10 personnes autour maximum.
Partout dans le monde, l'épidémie semble doucement ralentir. Plusieurs lieux très emblématiques ont rouvert. Pompéi en Italie, la bourse de New York, mais aussi des sites religieux.
Bethléem, Palestine, où serait né Jésus, réouverture de la basilique de la Nativité, cérémonie très solennelle. Jean-Sébastien Soldaini.
C'est par un tour de clé que l'évêque Théophile Actos a rouvert la basilique. Une minuscule porte en bois pour seul accès, car l'entrée principale restera close. Les autorités veulent y éviter les regroupements trop massifs, mais qu'importe pour le responsable des lieux, interrogé par les médias locaux. Après 3 mois de fermeture, soupire-t-il, c'est un jour de fête pour Bethléem et pour les fidèles. Tout le monde peut venir prier comme avant. Comme avant, pas tout à fait. Des règles ont été posées. Pas plus de 50 personnes à la fois à l'intérieur de la basilique. Et surtout, interdit de reproduire les gestes propres au rite chrétien. Ne pas toucher ou embrasser les pierres. Et ce, même dans la grotte où Jésus serait né. Suffisant pour donner de l'espoir, assure la ministre palestinienne du tourisme. Car la Cisjordanie, avec seulement 600 cas de coronavirus déclaré et 5 morts, semble avoir contenu l'épidémie.
En France, 5000 postes pourraient être supprimés d'ici 2 ans chez Renault. Selon le Figaro ce matin, majorité de départs à la retraite non remplacés. Le constructeur doit présenter vendredi son plan d'économie de 2 milliards d'euros.
Le gouvernement a présenté hier son plan de soutien pour l'automobile, 8 milliards d'euros au total.
Carton rouge pour la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Hier, la Cour de cassation, la plus haute juridiction française, a retoqué la prolongation automatique des détentions provisoires imposées par la ministre pendant le confinement.
Prolongation sans débat devant un juge. Chloé Triomphe, la Cour de cassation a estimé que c'était contraire aux droits fondamentaux.
Ce fameux article 16 de l'ordonnance du 25 mars avait suscité un tollé immédiat chez les avocats et chez certains magistrats qui dénonçaient le fait que des détenus en attente de jugement, donc présumés innocents, soit un tiers des prisonniers en France, se voyaient ainsi arbitrairement maintenus en détention. Pour Raphaël Kempf, avocat pénaliste, ce coup d'arrêt de la Cour de cassation constitue donc un désaveu pour la ministre.
C'est un désaveu qui apparaît peut-être comme un désaveu politique ou comme l'idée que les juges montrent au gouvernement qui sont les défenseurs des libertés. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que ce désaveu ou cette victoire, elle est en trompe-l'œil. Parce que la Cour de cassation nous dit, la chancellerie, Madame Belloubet, vous n'aviez pas le droit de faire ça. Mais attention, je donne un délai, qui est un délai de 1 à 3 mois, aux magistrats pour réparer les erreurs qui ont été faites.
Concrètement donc, pas question de libérer tous les détenus concernés par ces prolongations automatiques sanctionnées par la Cour de cassation. Il suffira aux juges de réexaminer leur dossier rapidement.
Le congé prolongé de 5 à 15 jours après le décès d'un enfant largement adopté hier par le Parlement après un ultime vote à l'Assemblée ponctué d'applaudissements. En début d'année, les députés En Marche avaient amputé le texte suivant la ministre du Travail. Emmanuel Macron avait appelé le gouvernement à faire preuve d'humanité.
Europe 1. Dans un tout petit instant, la suite du journal sur Europe 1, la réouverture des théâtres, ce pourrait être dès le mois prochain, oui, dès le mois de juin. Sont-ils prêts? Et surtout, dans quelles conditions sanitaires? On va en parler.
Et puis une première, vérifier les faits, l'injonction de Twitter à certaines publications de Donald Trump sur le réseau social.
Mercedes-Benz.
Depuis des semaines, vous êtes ce prof de maths du dimanche, ce chef cuistot aux mille et une recettes à base de pâtes, ou ce magicien qui transforme le salon en salle de sport. Mais ça y est, vous pouvez reprendre la route et enfin vous faire plaisir. C'est le bon moment. Votre distributeur Mercedes-Benz peut à nouveau vous accueillir pour vous faire profiter d'offres exclusives sur toutes les Mercedes neuves et d'occasion et vous proposer des solutions de financement flexibles. Vous avez assez attendu, non? Alors rendez-vous dès maintenant chez votre distributeur pour en savoir plus.
EDF Entreprises, aux côtés des entrepreneurs dans toutes les situations.
Donc ce mois-ci, j'ai consommé plus de 2 MWh d'électricité. Ah ben non, le mois dernier, on était à 0,8. Donc là, si j'enlève... Non, ou alors il faut que je recalcule dans l'autre sens. Oh, la plaie!
Heureusement, grâce au contrat flexible, EDF Entreprises vérifie que vous bénéficiez de la puissance et des prix les plus adaptés à votre activité. Contactez gratuitement dès maintenant votre conseiller EDF Entreprises au 3022. Devenons l'énergie qui change tout. Plus d'informations sur edf.fr/entreprise. L'énergie de notre avenir, économisons-la.
Avec Renault Pro Plus, parlons des professionnels. Anne, par exemple, est agent immobilier. Elle fait toutes ses visites en voiture et elle ne paye ni l'essence ni le parking.
Bah, ça, c'est parce que je roule en électrique.
J'y viens. C'est depuis qu'Anne est passée à l'électrique avec Renault Pro Plus qu'elle fait de réelles économies sur ses frais de déplacement et maîtrise mieux son budget.
Et c'est ça qui compte.
Avec Renault Pro Plus, changez d'énergie sans rien changer à votre business. Avantages économiques disponibles sur Renault.fr.
Europe 1, il est 6h10. La suite du journal, Mathieu Béliard, Jérôme Lacroix.
Deux tweets de Donald Trump signalés comme trompeurs par le réseau social. Le président américain y est très actif. La mention « Vérifier les faits » est apparue sous ses publications à propos du vote par correspondance nécessairement frauduleux selon Trump.
Qui a répondu sur Twitter toujours, il accuse le réseau d'étouffer sa liberté d'expression et d'interférer avec l'élection présidentielle de novembre prochain.
Le président américain, par ailleurs qualifié de crétin cette nuit par son adversaire Joe Biden. Trump s'était moqué de lui pour avoir porté un masque lors de sa dernière apparition publique. À quand la réouverture des salles de spectacle et des cinémas? On attend demain les annonces sur la deuxième phase du déconfinement. Dès hier, le ministre de la Culture souhaitait réouverture juillet pour les cinémas et juin pour les salles de spectacle et les théâtres.
Bonjour Sébastien Besselon.
Bonjour Monsieur Béliard, bonjour à tous.
Vous êtes le directeur de l'Européen, salle de spectacle parisienne dans le 17e arrondissement. Votre salle est à l'arrêt complet depuis plus de deux mois, depuis le 13 mars précisément. Vous êtes prêt à rouvrir dès le mois prochain, c'est possible?
Bah écoutez, comme moi je l'ai dit au ministre il y a 15 jours chez vos confrères du Parisien, notre métier c'est un métier de programmation, donc il nous faut un peu de temps pour mettre la machine en route. Hein. Pour l'instant on est sous un arrêté qui impose une fermeture jusqu'au 10 juillet, donc on a annulé toute notre programmation jusqu'à cette date. Et ce qu'il nous faut maintenant c'est une date précise, hein. Donc on fera le maximum nous, pour ouvrir le spectacle dès qu'on en aura l'autorisation. Les artistes pour le coup ont envie de jouer, je pense qu'on a tous besoin de se détendre et de se changer les idées. Donc pour les grosses salles ça risque d'être un petit peu compliqué en juin, parce que ça sera un peu difficile et court. Maintenant on est une multitude de salles en France à pouvoir être réactives. Et proposer des choses. Hein.
Alors il y aura un protocole sanitaire à respecter, il s'agit aussi de rassurer les spectateurs bien sûr. Si on vous impose par exemple de condamner une place sur deux ou un rang sur deux, est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir avec une salle remplie à 40-50% de sa capacité? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre?
Bah écoutez, en fait ce qui est clair, c'est nous ce qu'on aurait souhaité, c'est surtout ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on ait les mêmes conditions que les avions, vous voyez, qu'on puisse effectivement, où on va être confiné à 10 000 mètres d'altitude. Donc là, effectivement, nous, l'objectif, c'est de perdre le moins de fauteuils possible, et bien sûr, sans mettre la santé des spectateurs en danger, hein, c'est pas l'objectif. Maintenant, est-ce qu'on va prendre plus de risques dans une salle de spectacle qui va être désinfectée entre chaque représentation, voire plusieurs fois par jour que dans le métro? J'en suis pas sûr, hein. Et pour le moment, ben voilà, les recommandations, c'est 4 mètres carrés par un groupe de personnes, ce qui effectivement nous impose une ouverture à 50% de la jauge, donc ce qui est impossible. C'est comme si, imaginez, on demandait à Europe 1 de diffuser uniquement sur la moitié de la France, uniquement, quoi. Donc les conditions pour l'instant elles sont impossibles. Maintenant on a un bon espoir qu'on trouve des solutions.
Merci beaucoup Sébastien Besselon.
Je vous en prie. Merci à vous tous.
Merci et bon courage. Le directeur de l'Européen, salle de spectacle dans le 17e arrondissement de la capitale. Merci d'avoir été en direct, Sébastien Besselon, l'invité du journal de 6h d'Europe 1.
Si je vous dis mer, océan, soleil écrasant, plage blonde, peut-être me répondrez-vous d'emblée Nice, Marseille. Oubliez, la ville la plus ensoleillée du printemps a été le Touquet. 706 heures de soleil de mars à mai.
Première fois en 70 ans qu'une ville du nord de la France arrive en tête de ce classement. C'est bon pour le tourisme. Pas forcément une bonne nouvelle hein, pour autant, pour les climatologues en tout cas. Écoutez Maximilien Carlier.
Shorts, polo et lunettes de soleil. Beaucoup de monde devant les glaciers les week-ends. Il y a comme un air de vacances au Touquet. Tout cela, ça surprend Karine. Oui, cette météo fait beaucoup de bien, mais cette hôtelière ne s'en réjouit qu'à moitié.
Ça fait 18 ans que je suis ici et je crois que de mémoire, j'avais jamais vu ça. C'est toujours très très agréable. Après, vu les circonstances et ce qui se passe actuellement, c'est pas de chance, on va dire. Parce qu'on aurait fait un début de saison mémorable. On aurait explosé les chiffres.
Ce sont les chiffres d'ensoleillement qui ont augmenté en moyenne. C'est entre 530 et 570 heures au printemps. Rien à voir avec ces 706 heures de soleil. Et ce n'est pas forcément bon signe pour Patrick Marlière, météorologue.
On peut craindre un été qui s'annonce particulièrement sec, certainement très chaud. Là, plus personne, je pense, aujourd'hui ne peut définitivement dire non, le réchauffement climatique, c'est quelque chose de normal. Si on fait le bilan, on est 1,5 à 2 degrés au-dessus des normales, ce qui est vraiment exceptionnel.
Et autre record qui pourrait tomber à la fin du mois, c'est la pluviométrie. Il n'a quasiment pas plu en mai dans cette station balnéaire comme dans plusieurs autres villes sur le littoral.
Et voilà, le Touquet, la ville la plus ensoleillée de France. Vous attendiez pas celle-là?
Je ne sais pas si on est dans les 100 km au Touquet. Non, c'est un peu au-delà.
Ah oui,
c'est un peu au-delà. Non, c'est...
Ils sont préservés pour l'instant.
C'est dommage, hein. Je prenais la voiture après la matinale. Merci Jérôme Lacroix. Vous êtes sur Europe 1. C'était le journal de 6h à 6h30. On va retrouver Théo Manval pour une nouvelle édition.